Canus Info. Tous les deuxièmes lundis du mois, le Canu Info s'organise en mixité choisie, sans Maxis, pour parler de l'actualité
avec un regard féministe.
Quoi ? On n'a pas le droit d'y aller ? Ouin ouin ! Mais c'est du racisme, c'est de la discrimination de l'homme blanc qui pourtant souffre au quotidien.
Sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios.
Non,
les plus rebelles de la radio.
N'était pas là, que dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors.
C'est nous qui faisons leur richesse. Et aujourd'hui, s'ils sont cravates, ils marchent avec des voitures de luxe. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Si nous-mêmes, les femmes, on ne sort pas du silence pour dire stop, parce que c'est nous qui subissons. On les fait enrichir et nous, on ne gagne rien dans nos poches.
Non, ne me demandez pas, non, de ne pas me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça. Je boogie down.
Bonsoir, bonsoir. C'était les micros que je voulais ouvrir. Bonsoir. Vous êtes sur Radio Canu, vous écoutez les Canus Info. Et on commence tout de suite avec les titres.
Et on est le 13 février.
Et on est le 13 février, ouais.
Et donc cette semaine, on va commencer par la citation de la semaine, puis une rubrique spéciale, les boomers de la semaine, avant de passer à l'international,
où on parlera du mouvement au Royaume-Uni et de la mobilisation historique au Portugal. Et on enchaînera ensuite au national, avec un sujet sur le CRA du Ménilamno. Et au local, on ira à visiter le squat du Croise et on parlera de l'interpellation de membres de la GAL.
Et on passera ensuite à un dossier spécial retraite avec tout un tas de sujets passionnants, notamment sur les arrêts de compteurs de gaz et d'électricité, un reportage sur la manif lyonnaise de ce samedi, des actions mardi dernier à Oulin de la part des cheminots de la chimie et des énergéticiens. On lira ensuite le communiqué de la culture en lutte, puis on fera un petit point sur la mobilisation à venir.
Mais tout de suite, donc, la citation de la semaine. Et oui, elle nous vient d'Edmond Bourgeon, adjoint à la sécurité de la ville de Rouen. Je le cite donc. « Les violences contre les femmes sont prises en compte au niveau national. Laissez faire les professionnels. Nous sommes là pour agir, et ce depuis de nombreuses années. » Alors qu'en moyenne, chaque année, 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viols et 213 000 de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, Edmond, oui, a osé écrire ça tranquillement dans un mail à Michel, 64 ans, militante féministe sanctionnée par la ville de Rouen pour avoir collé des affiches dénonçant les violences sexistes et sexuelles. Le 12 décembre, Michel et deux autres colleuses ont ainsi collé trois messages. Si vous en touchez une, nous répondrons toutes. Céder n'est pas consentir et mon corps n'est pas responsable de ta violence. Quelques jours plus tard, la police municipale apporte à Michel un courrier les convoquant elle et son mari à un entretien à la mairie avec le fameux Edmond Bourgeon, adjoint à la sécurité de la ville. Il leur annonce que les caméras de vidéosurveillance ont identifié la voiture du couple comme celle utilisée par les colleuses. Il a même retracé le parcours exact des militantes et présente une série de photos prouvant ses accusations. Edmond fait du zèle, et oui, parce qu'Edmond est un ancien policier. Le métier, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et lors de l'entretien, Edmond dit au mari de Michel « Mais monsieur, votre femme, elle sort à 22h, et vous ne lui demandez pas où elle va ? Moi, ma femme, je lui demanderai. » Et puis il répète à Michel que si Pécresse était au pouvoir, les féminicides seraient réglés.
Ah, sacré moment !
Et Edmond innove aussi. Il utilise la procédure de transaction du maire, créée par la loi du 8 avril 2021 sur la justice de proximité, qui permet au ministère public de passer une convention avec les municipalités pour les autoriser, pour des petits délits, à proposer à la personne de réparer sa faute soit en payant, soit en effectuant un travail non rémunéré d'intérêt collectif. Cette mesure a été créée pour désengorger les tribunaux des petits délits, mais ce n'est pas une décision de justice et la personne a la liberté d'accepter ou de refuser la transaction proposée par la mairie. Si elle refuse, le parquet récupère la main et il redevient l'autorité qui apprécie les faits et décide de l'opportunité des poursuites. Edmond, grand nostalgique de la répression, crevait d'envie de se substituer au parquet et annonce donc à Michel qu'elle devra rembourser la somme des frais de nettoyage des collages, évaluée à 1 070 euros. Dans un mail suivant, il lui propose de transformer ce dédommagement en des tiges de 60 heures au profit de la collectivité. Il lui demande aussi à plusieurs reprises de donner les noms de ses deux complices, ce qu'elle refuse évidemment. Surtout, il refuse à Michel le droit de consulter la procédure afin de préparer sa défense, en lui indiquant que seul son avocat peut le demander auprès du procureur de la République. Alors que le même procureur de la République de Rouen affirme que la personne peut bien obtenir une copie de son dossier. Pour couronner le tout, il présente la procédure de transaction comme une procédure obligatoire et n'indique à aucun moment que Michel a le droit de la refuser. Évidemment, l'avocate de Michel compte refuser la transaction pour éviter à Michel de se faire sanctionner par un flic de droite ayant acquis quelques pouvoirs municipaux il y a peu. En attendant, le collectif des colleuses de Rouen dénonce la répression contre l'une des leurs et un rassemblement de soutien d'environ 70 personnes a eu lieu jeudi 9 février à 18h30 devant la mairie avant l'ouverture du conseil municipal de Rouen.
Et on va certainement enchaîner avec une autre absurdité avec la rubrique les boomers de la semaine.
Et oui, cette semaine, le diplôme du parfait boomer n'est pas décerné à ce bon Monmon Bourgeon, mais bien aux médecins libéraux qui organisent demain une manifestation contre une proposition de loi donnant plus d'autonomie aux infirmières de pratique avancée. Les IPA, c'est des infirmières formées pour pouvoir, par exemple, renouveler une prescription, dans le cas d'une maladie chronique. En France, c'est une profession qui a été autorisée depuis 2016. Elles ont un bac plus 5. Dans notre pays, ça existe depuis des années et ça a fait ses preuves. On rappelle qu'en 2022, 7 millions de Français, soit 1 sur 10, n'ont pas de médecin traitant. La pénurie de généralistes n'est plus à démontrer, mais ceci rue de nouveau dans les brancards, comme il l'avait déjà fait en 2016, contre cette proposition de loi qui permet aux infirmières en pratique avancée de prescrire en première intention. Le vieux monde est donc en ordre de bataille pour garder ses privilèges.
Et oui, international maintenant, on parle du mouvement au Royaume-Uni.
Et oui, on va encore un peu parler du secteur de la santé. On avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais ça fait déjà plusieurs mois que la colère gronde au Royaume-Uni, pays pourtant bien connu pour ses lois anti-grève. Tous les secteurs sont mobilisés, infirmiers, infirmières, ambulanciers, ambulancières, suivis par la poste, les transports, les pompiers et tant d'autres. La semaine dernière, et notamment le lundi 6 février et le vendredi 10 février, le mouvement social se poursuit. Lundi, la semaine commence avec une grève massive et inédite. La plus importante journée de grève de l'histoire du Royaume-Uni, selon plusieurs journaux, du service de santé publique britannique. Avec donc une forte mobilisation des infirmiers et infirmières et des ambulanciers ambulancières, suivis par d'autres secteurs. Ce serait le troisième débrayage en trois mois à l'appel des syndicats anglais. Vendredi 10 février, la grève continue. Cette fois, à l'initiative des ambulanciers, ambulancières, 15 000 auraient cessé de travailler et suivis par le personnel des universités. 150 universités sont mobilisées. Cette semaine s'annonce aussi chargée avec deux grèves annoncées le 14 et le 16 février. Les revendications sont simples. L'augmentation des salaires face à une inflation qui dépasse les 10% et qui touche les biens essentiels, le logement, l'énergie et l'alimentation. Le secteur de la santé est particulièrement touché, lié à un manque criant de personnel, aggravé par la crise du Covid. Il manquerait 50 000 infirmiers, infirmières et 12 000 médecins dans le secteur hospitalier. C'est donc dans ce contexte de surcharge de travail que les travailleuses du secteur ont commencé à réclamer une hausse des salaires. Rappelons d'ailleurs que les professions les moins bien rémunérées et ayant des conditions de travail les plus pénibles, tant physiquement que psychologiquement, sont des secteurs majoritairement féminisés. En guise de réponse, le gouvernement de Rishi Sunak soutient que l'augmentation des salaires pourrait aggraver l'inflation. Mieux vaut sauver le capital et l'inflation que les travailleuses et le secteur public. Le gouvernement reste donc inflexible et veut instaurer un service minimum dans plusieurs secteurs, une menace supplémentaire aux droits de grève. Il souhaite également interdire les piquets de grève devant les entreprises sous prétexte d'un trouble à l'ordre public. En tout cas, ce mouvement social nous rappelle vaguement le contexte actuel français. Inflation, revendication pour de meilleures conditions de travail, système de santé en vrac total, tout ça face à un gouvernement impassible. On peut aussi rappeler que les travailleuses du secteur du soin et du social en France demandent une application du Ségur et une augmentation des salaires, car les primes, c'est bien beau, mais ça n'a pas d'impact sur les pensions de retraite.
Et on passe tout de suite à la mobilisation historique au Portugal.
Oui, au Portugal, l'enseignement public, la santé et le transport ferroviaire étaient en grève jeudi contre la baisse des salaires et des retraites et pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Les enseignants, quant à eux, ont de nouveau pris la rue ce samedi 11 février. Ils étaient plus de 150 000 à défiler dans les rues de Lisbonne. Alors, cette mobilisation historique, elle intervient dans un contexte d'inflation et de grogne sociale qui dure depuis plusieurs semaines au Portugal. Les professeurs dénoncent également le manque d'attractivité d'une profession vieillissante. Tiens, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Ils réclament une amélioration des modalités de titularisation et la progression de leur carrière, mais aussi le rattrapage des salaires sur une période de plus de 6 ans qui avait été gelée donc au moment de la crise financière en 2008. On vous tiendra au courant des suites de cette mobilisation par ici.
Et puis on va enchaîner avec une musique. Et oui, c'est bientôt le 8 mars, la journée de lutte internationale pour les droits des femmes. Et on écoute tout de suite Bonne Fête de la rappeuse Juste Chani.
Ça ne disait rien, elle disait simplement d'être belle, d'être bien sapée.
Moi, dans mon couple, ma femme doit être belle et se taire.
Une femme sur 5 qui est victime de harcèlement au travail.
Dans ces femmes qui parlent, 40% perdent leur travail.
Le nombre de plaintes pour violences sexuelles a augmenté de 23% en un an.
Mais c'était pas bonne fête. Ou alors c'était nous aussi aux femmes qu'on mordu le sol ou qu'on morflait. Celles sous morphine qui verront pas morfler. Celles qui ont croisé le carreau, c'est pas la bonne fée. Elle a porté jupe, on l'a boxée. On l'a embauchée juste pour ses bonnes fesses. Dans le bus, on l'a frottée. Non, mais c'était pas bonne fête. C'était pas bonne fête. J'ai vu le nombre de mythos. J'ai lu de sombres éditos. Croisé des bandes de mythos. Toi 16 ans, privé de Wico. Elle a 6 ans, privé de clito. Synopsis, à l'heure et de nuit. Si joli, si joli. Le monde est miso. La musique aussi. Silo, syllogisme. C'était pas bonne fête. C'était pas bonne fête. C'était pas bonne fête. C'était pas bonne fête. Rends l'argent mais rends d'abord les 20%. Ils me traitent de pute parce que je l'ai repoussé. Les mentalités faut qu'on se batte pour ça. Une main par-ci, un cri perçant. Les publicités ne choquent plus personne. Tant que pour convaincre on utilise une perte de sang. Le bonheur des femmes et le liquide vaisselle sont synonymes. J'ai cramé depuis mes premiers ratus. Le masculin l'emporte sur mes ratures. Dieu a dit que tu nous tenteras tous. Tu auras l'interdiction de nous montrer tes rotules. Tu sais chez nous elles sont montées à l'acide. L'enchage est massif quand la danse est lascive. 8 ans et marié tu connais la suite. Vito, vito, vito. Ne souhaitez pas bonne fête. Ne souhaitez pas bonne fête. Ne souhaitez pas bonne fête. C'était pas bonne fête. Si joli, si joli. C'était pas bonne fête. Si lo, juste. C'était pas bonne fête. Vino, vino, vie. C'était pas bonne fête. Gino, Gino, vis.
Alors que on n'a pas du tout résolu le début du problème.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, il est 19h15 et c'est le Canus Info du 13 février. On vient d'écouter la rappeuse Juste Chani avec son morceau Bonne Fête. Et on continue au national avec un sujet sur le crat du Ménil-Amelot.
Oui, tout à fait, puisque dans un communiqué datant du 7 février, la CIMAD a annoncé s'être retirée du CRA de Ménil-Amelot depuis le 2 février. Elle y était l'association à laquelle le gouvernement sous-traite l'accès à une aide juridique. Ces associations qui acceptent de participer indirectement à l'enfermement des étrangers sont souvent critiquées par les collectifs anti-CRA, pour information Alliance et Forum Réfugiés, parce que l'association qui est dans le CRA, non pas le collectif anti-CRA, parce que ces associations servent à justifier et à rendre acceptable un enfermement injuste et raciste, sous prétexte donc qu'une association est présente pour garantir l'accès aux droits. En vérité, ces associations n'ont pas tellement de marge de manœuvre et n'ont pas du tout de pouvoir pour s'opposer aux injustices et aux violences systématiquement subies par les prisonniers des CRA. Il est très rare qu'elles dénoncent ce qui s'y passe, notamment parce que les associations en question répondent à des appels d'offres pour gagner leur place dans le CRA et que c'est une entrée d'argent pour ces associations. C'est donc assez rare que l'on, pour qu'on le relève, la prise de position de la CIMAD est rare. Et elle a déclaré donc dans le communiqué que les situations de violation du droit sont tellement nombreuses que l'exercice de notre mission au CRA est rendu impossible. Il et elle affirment que cela fait plusieurs mois que des violences policières sont constatées, mais aussi des pratiques illégales de la part des préfectures qui expulsent même des personnes censées être protégées, c'est-à-dire des personnes qui ont déposé une demande d'asile en cours d'examen, ou qui ont formulé un recours suspensif, ou encore des personnes normalement protégées par leurs attaches familiales sur le territoire français, et même des tentatives d'expulsion vers des pays jugés à risque, Syrie, Soudan, Érythrée, Somalie, Russie. À cela s'ajoute aussi le placement en détention de personnes victimes de violences conjugales, de personnes en situation régulière, et donc par pure xénophobie donc, et enfin de personnes dont l'état de santé physique ou psychiatrique demanderait plutôt une hospitalisation. Bref, une longue liste de problèmes graves, invisibilisés par le système même des CRA. Le communiqué que vous pourrez retrouver sur le site de la CIMAD se termine en rappelant que l'isolement, soit l'enfermement dans l'enfermement, qui est censé être exceptionnel, est aujourd'hui utilisé à outrance par l'administration. On félicite les 11 salariés de la CIMAD qui sont à l'initiative de ce retrait et du communiqué, mais on rappelle que ces manquements graves aux droits humains existent dans tous les CRA. C'est le principe même de criminaliser et d'isoler une population qui la met en situation de vulnérabilité, face à des forces de l'ordre qui, on commence à le savoir, aiment la violence. À Lyon, en décembre dernier, un détenu au CRA de Saint-Exupéry a tenté de se suicider. Ça arrive régulièrement. Sur ce suicide en particulier, vous pouvez lire le témoignage de son co-détenu sur le blog de l'Anticra de Lyon. C'est crametoncra.noblog.org. Mais je vous préviens, c'est une description assez explicite et c'est assez affligeant de la réaction des flics qui ont surtout mis à l'isolement les détenus qui ont tenté de venir en aide à la personne qui a tenté de se suicider donc et qui l'avait amené à l'infirmerie. Tout ça se passe et s'aggrave dans un contexte xénophobe dont Darmanin est à la tête. En novembre 2022, il publiait une circulaire pour inciter les préfets à expulser davantage et à systématiser les OQTF. Cette incitation à faire du chiffre au niveau des expulsions explique en partie ces expulsions illégales. Notre ministre de l'Intérieur ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'apprête à faire passer une loi qui prévoit d'augmenter fortement les expulsions d'étrangers et d'étrangères et de systématiser donc le recours à leur enfermement, avec le projet déjà lancé de créer 3000 nouvelles places en CRA, des prisons pour expulser les étrangers donc. Elle constitue une atteinte grave à l'état de droit en ce qu'elle tend à assimiler des personnes n'ayant commis aucune infraction ni aucun crime à des personnes condamnées judiciairement et propose un traitement administratif similaire. Et pour finir sur l'enfermement des étrangers, on signale qu'il y a très récemment eu une révolte dans un CRA italien à Turin, les 4 et 5 février. Les détenus se sont révoltés contre le traitement qui relèverait de la torture qui leur est réservée. Plus d'infos sur Rébellion dans un article intitulé « Mise à jour sur les journées de protestation du CPR de Corse Brunelleschi ». Solidarité avec toutes les personnes enfermées dans toutes les sortes de prisons. Et pour rappel, pour manifester votre solidarité, il y a une manifestation organisée samedi, place Gabriel Péri à 14h contre le projet de loi de Darmanin.
Et on enchaîne avec la rubrique locale et un petit reportage sur un squat à Ducroise. Oui, en effet, on va écouter ce reportage donc, dans ce squat rue Ducroise qui a été ouvert en juillet 2022. C'est un bâtiment qui appartenait à la métropole. Le procès a eu lieu le 30 janvier. Les habitants et une personne en soutien nous expliquent leur situation. Alors, certaines parties sont en anglais, donc on va les traduire en live. On vous remercie de votre indulgence.
Hello, Harmony. We are the squat at Rue du Croise.
On est squat Rue du Croise à Villeurbanne.
Yeah, it sounds good, really perfect. Wow.
Alors, on est dans un squat Rue du Croise à Villeurbanne, qui a été ouvert en juillet 2022. C'est un bâtiment qui appartient à la métropole, qui a pas de projet dessus. C'est vide depuis au moins 2017.
Here is the squat, and this room is for one big family.
And alors, ces chambres sont pour des grandes familles.
So we have a lot of rooms in
alors,
this
on
squat,
a une beaucoup de chambres dans cette maison.
We are going downstairs to check the rest.
On va aller voir en bas, regarder le reste.
So, yeah, we have the kitchen.
Donc là, on a la cuisine.
The gas,
on a le gaz pour tout le monde.
Everybody. And then we have a washing machine. So these
on
are
a des machines à laver.
Wash our clothes.
C'est des machines à laver
so
pour laver
this
nos vêtements.
For the kids.
Ça, c'est pour les enfants. On a quelques jeux pour les enfants. Là, c'est où les enfants dessinent. Là, il y a les livres. Donc, quand ils les utilisent dans leur chambre, ils doivent les ramener après. Ça, c'est la salle de bain et les toilettes.
Hot water and cold water. They are really trying for us.
On a l'eau chaude et l'eau froide que des personnes sont venues nous mettre.
Rooms for two families.
Ça, c'est les chambres pour deux familles qui vivent ici.
So we have about 9 kids here and
il y a 9 enfants ici et 12 adultes. Oui, on a beaucoup d'enfants, des nouveau-nés et d'autres qui vont bientôt naître. Je suis allée au tribunal pour le procès avec des doutes parce que je n'avais jamais été dans cette situation. Nos amis et ceux qui nous aident ont trouvé une avocate qui était vraiment très bonne pour nous défendre. On a vraiment apprécié parce que c'est pas facile pour nos amis de nous soutenir. On espère que le juge dira qu'on peut rester, car s'il nous demande de partir, on n'a pas d'endroit où aller. Il y a des nouveau-nés et des bébés qui vont bientôt naître.
Du coup, c'était assez étonnant, en même temps pas tant parce que c'est dans leurs habitudes, mais du coup, la métropole a attaqué en justice le squat juste avant Noël en demandant une expulsion immédiate, malgré le fait qu'il n'y avait aucun projet sur le bâtiment, que c'est vide et que c'est majoritairement des familles et des femmes seules, c'est-à-dire en fait le public qui est censé être hébergé par la métropole, à défaut de l'être par l'État. Bah, on est allé au tribunal avec l'avocate, avec les habitantes, pour demander plus de délais. Donc l'avocate, elle a demandé 3 ans de délai, ce qui est le maximum qu'on peut demander pour un squat, face à la métropole qui continue de plaider une expulsion immédiate, sans délai, sans application de la trêve hivernale.
My name is Esther. I know I live in squat.
Je m'appelle Esther et je vis dans le squat avec mon enfant et plein d'autres gens. J'habite dans le squat parce que quand les travailleurs sociaux t'envoient dans des foyers parce que tu as un enfant, quand ta demande d'asile se termine, même si tu as un bébé, ils s'en fichent. C'est pour ça que je vis en squat. Quand j'ai redemandé pour un appartement ou une place en foyer, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place.
Eh ben oui, les problématiques de mal logement ou d'absence de logement, elles sont vachement plus présentes pour des femmes, notamment les femmes seules et ou pour les minorités de genre. Les personnes LGBTQI+, qui sont beaucoup discriminées à l'entrée dans le logement et dans l'hébergement. En fait, on a l'impression qu'il y a plus de dispositifs pour les femmes. Donc effectivement, il y a des dispositifs spécifiques qui existent pour les femmes, notamment les femmes victimes de violences, notamment les femmes qui sont seules avec des enfants. Il y a un peu des dispositifs spécifiques via la métropole, via d'autres choses. Mais on se rend compte aussi qu'en parallèle, tous les autres dispositifs qui sont du coup pas du tout adaptés aux femmes font qu'elles ont accès que aux dispositifs spécifiques pour les femmes et pas du tout aux autres, et que ça limite vachement leur entrée dans l'hébergement, et que le peu de dispositifs auxquels elles ont accès maintenant, c'est quasiment que de la mise à l'abri, c'est-à-dire pas du tout un hébergement avec un accompagnement, avec un dispositif d'insertion qui permet peut-être d'aller vers le logement petit à petit. C'est des dispositifs qui sont que de la mise à l'abri, et du coup on se retrouve dans une chambre d'hôtel seule ou avec ses enfants, mais avec pas le droit de visite, pas le droit de cuisiner, pas du tout d'autonomie. Et ça, en fait, il y a assez peu de femmes qui ont accès, parce que même ça, c'est difficile d'y avoir accès. Il y a des critères très serrés. C'est souvent les femmes quand elles accouchent, quand elles ont des enfants de moins de 3 ans. Mais en fait, même pour ces publics-là, il n'y a pas assez de place. Et quand elles y accèdent, souvent, c'est des lieux où, en fait, elles perdent beaucoup de ressources. Elles perdent tous les réseaux de solidarité qu'elles ont créés dans d'autres lieux. Souvent, c'est des hôtels qui sont très excentrés. On n'a aucun suivi. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. On se projette dans rien. Donc en fait, on se rend compte que les dispositifs sont très inadaptés et que les squats viennent un peu pallier à ces manques-là, mais aussi proposer des espaces où ben, on peut s'entraider, garder les enfants des autres, trouver de la nourriture en commun, reprendre un peu de la force aussi après des parcours souvent qui sont super difficiles. Et que c'est pour ça que c'est des lieux qui sont importants. À Lyon, il y a 17 ou 18 000 logements vacants, dont 70% appartient au domaine public. Donc en fait, c'est des bâtiments qui pourraient être mis à disposition par l'État, la métropole, les mairies, pour permettre aux personnes d'habiter dans des bonnes conditions. Et au lieu de ça, on préfère mettre en place des dispositifs de mise à l'abri dans des hôtels sordides. Donc c'est aussi des choix politiques que de spéculer sur du bâti vide plutôt que de le mettre à disposition des personnes pour qu'elles puissent avoir des logements corrects, quoi.
Le squat,
j'aime bien, parce que s'il n'y avait pas le squat, ben, on n'aurait pas de toit sur la tête. Parce que quand ta demande d'asile est terminée, ils te demandent de partir des foyers. Si on reste dans le squat, on nous demande de partir, mais vous voulez qu'on aille où en hiver ? Deuxièmement, on demande des chèques alimentaires pour les enfants et des fois on reçoit rien pendant des mois. Des fois on n'a pas d'argent pendant 3 mois. Quand on nous donne un hébergement, on a des règles super strictes, c'est nul. Des fois, on doit partager la chambre, on peut être jusqu'à 3 personnes par chambre. On nous dit que c'est parce qu'on n'a pas de papier.
En fait, il y a plein de métiers qui sont plutôt des métiers dits masculins, ou en tout cas auxquels accèdent plutôt des hommes, qui vont permettre la régularisation. On sait que dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la restauration, les métiers en tension, tout ça, ça, il va y avoir peut-être un peu de régularisation, mais sur des titres assez courts. Enfin voilà, on ne sait pas exactement encore la forme que ça va prendre, mais ça ira plutôt vers de la régularisation uniquement par le travail, sachant qu'en fait, les femmes qui n'ont pas de papier, elles accèdent difficilement à des travaux qui amènent à des bulletins de salaire, à des trucs qui sont reconnus, parce que c'est souvent des travaux dans le secteur du soin, dans le ménage, dans la garde d'enfants, ou dans des secteurs qui ne sont pas du tout reconnus, et du coup, ça ne leur permet pas, à terme, de faire des demandes de titre de séjour. Pour autant, il y en a qui... Il y a plein de femmes qui ont des enfants, qui du coup aussi ne peuvent pas travailler parce qu'elles ont des enfants en bas âge, qu'elles n'ont pas accès à des garderies, que ça prend du temps de mettre en place les choses pour pouvoir accéder à du travail, et que du coup elles n'auront jamais de perspective de régularisation, même si soit en travaillant dans des secteurs au black, soit en ayant des enfants ou en contribuant à la vie associative, en étant présent sur le territoire, en fait elles contribuent à la vie locale. Je veux dire, puis elles consomment, elles achètent des choses comme tout le monde. Enfin voilà, tout le monde contribue à la vie locale, mais elles, pour autant, elles auront beaucoup moins de perspectives de régularisation, quoi. Et pour revenir au squat rue du Croise, c'est une situation qu'on voit beaucoup avec des femmes qui sont là depuis des années, qui ont travaillé, qui ont fait plein de choses, qui sont impliquées dans la ville, qui ont des enfants qui sont scolarisés ici et qui essuient des refus de la préfecture, de l'OFPRA, dans leur démarche, ce qui fait qu'elles ont peu de perspectives d'accéder au logement, parce que pour avoir un logement, il faut un travail ou des papiers. Pour accéder au dispositif d'hébergement d'insertion, bah, il faut avoir des papiers. Et du coup, on ne leur reconnaît jamais le droit d'être ici, alors qu'elles le sont. Dans tous les cas, elles sont ici, en fait. Donc,
pour commencer, à propos de la métropole, ils sont vraiment durs. Ils attendent que les enfants soient mis à la rue, alors qu'ils sont censés vous aider. Même s'ils n'aident pas les mères, au moins ils pourraient aider les enfants, leur donner une maison, un hébergement. Car vivre dans un pays sans hébergement, c'est ne pas vivre du tout. On a eu le début du reportage suivant, du coup. Alors, pour dire le résultat, le verdict du procès donc, qui a eu lieu le 30 janvier, sera donné le 30 mars. C'est au tribunal de Villeurbanne, si je ne m'abuse. On vous tiendra évidemment au courant de la suite.
Et on va enchaîner tout de suite avec une musique. que quelqu'un veut présenter?
Non, on va enchaîner tout de suite au local avec l'interpellation de la GAL. Et oui, une fois n'est pas coutume, la BST, la brigade spécialisée de terrain pour les intimes, s'est illustrée ce vendredi dans le quartier de la Guillotière. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on en parle ici. Le délire médiatico-sécuritaire autour du quartier de la Guillotière a entraîné nombre de rafles de sans-papiers, mais aussi l'interpellation de nombreux militants et militantes pour des prétextes absolument fallacieux. La plupart du temps, ils et elles sont ressortis d'une garde à vue bien éprouvante sans aucune poursuite. Le harcèlement policier se poursuit aujourd'hui puisque ce vendredi, deux personnes ont été interpellées place Mazagran pour avoir prétendument tagué « Palestine vaincra, la police tue ». Interpellés à 18h, ils sont sortis 24 heures plus tard, alors même qu'ils ont été interrogés dans la soirée. On se demande bien ce que fait la police pendant les 20 heures après les auditions des deux personnes interpellées, ce qui justifie de maintenir en garde à vue ces personnes. Alors visiblement, ça leur a pas permis de trouver une information toute bête, pourtant confirmée par le Conseil d'État lui-même. Le slogan « La police tue » ne constitue pas un outrage. Et la vingtaine d'heures de garde à vue des camarades ne leur a visiblement pas été suffisante à la police pour trouver cette information, puisque ceux-ci sont poursuivis pour outrage. On vous tiendra au courant des suites de cette affaire sur les ondes de Canu.
Et cette fois, une musique.
Et oui, pour annoncer notre dossier sur les retraites, on écoute les Vulves Assassines.
La retraite !
Bah, j'ai l'impression qu'on n'a pas le bon fichier pour...
Ah, ok. À 60 ans, on s'est battu pour gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans.
Écoutez les Vulves Assassines avec La Retraite à 60 ans. Vous êtes toujours sur les Canus Infos en direct sur le 102.2. Il est 19h36 et c'est l'heure du dossier.
On commence tout de suite avec les coupures d'électricité après les actions Robin des Bois, pendant lesquelles les travailleurs et travailleuses de l'énergie ont passé des consommateurs pauvres en heure creuse. Ils sont passés cette fois à l'offensive en annonçant des coupures ciblées contre les élus qui soutiendraient la réforme des retraites. La CGT Mines Énergie a présenté le 13 janvier un plan de bataille pour obtenir le retrait pur et simple du projet de gouvernement. Et ce plan prévoit une reprise en main de l'outil de travail sous toutes ses formes, avec rétablissement de l'électricité et gaz aux plus précaires, énergie gratuite, mais aussi coupures ciblées et baisse de production. On recense déjà 2 coupures volontaires et limitées de courant en France. Il y en a eu donc qui étaient jeudi en marge des grèves contre le projet de réforme de retraite. C'était à Massy dans l'Essonne et à Chaumont en Haute-Marne. À Massy, il y a quelques 1100 clients qui ont été touchés. Le poste manipulé pour occasionner cette coupure alimente environ 2200 clients, notamment d'une zone industrielle, et ça a duré de 6h30 à 8h. La CGT Énergie a donc revendiqué cette coupure en expliquant que c'était pour faire passer le message qu'ils et elles avaient bien les mains sur le réseau. Et puis la coupure à Chaumont a touché les bâtiments de la préfecture, du conseil départemental, du conseil régional, de la mairie et de l'inspection académique. Les coupures ont eu lieu de 6h30 jusqu'à près de 11h30. Et voilà les actions de l'énergie.
Et toujours dans le même thème, mercredi dernier, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, des membres des CGT Chimie, Énergie et Cheminots ont coupé l'électricité de la permanence de Cyril Isaac Sibyl, député MoDem du Rhône, durant environ 2 heures. Ils se sont ensuite rendus sur place pour y coller des autocollants et revendiquer l'action. Les militants ont ensuite défilé jusqu'à la mairie d'Oullins pour discuter avec la maire Clotilde Pouzergue, qui vient des Républicains. Elle ne les a pas reçus, mais ils en ont profité pour ambiancer la mairie. Et c'est une mise en garde pour tous les politiques qui se prononcent en faveur de la réforme.
Et toujours dans notre dossier sur les retraites, on va maintenant écouter un reportage qui met en lumière la réforme selon une perspective féministe et sous l'angle du genre. On va attendre une personne, non pas lors de la manif de samedi dernier, mais lors de la manif du 7 février, dans le cortège féministe et queer, puis des personnes rencontrées lors de la première AG féministe le 31 février et ensuite lors de la seconde AG féministe le 7 février. Le 31 janvier et le 7 février, pardon. Donc les personnes vont nous parler de la mobilisation dans leur secteur professionnel respectif, puis nous parler de leur motivation à s'organiser en AG féministe. On écoute.
Dans les usines, dans les cuisines, dans les hôpitaux,
du coup, je suis en train de tenir la banderole du cortège féministe. On est quelques-uns, quelques-unes à être venus sur ce cortège-là. Et notamment, moi, je fais partie d'une chorale féministe en mixité choisie sans mexis, autogérée, qui s'appelle les Branleuses. Et on est là, comme les deux dernières fois, bah, pour chanter, pour crier des slogans, pour participer à ce cortège. Moi, j'étais déjà là en 2019 sur le premier mouvement contre la réforme des retraites. Et il y avait déjà un cortège féministe aux classes avec une AG féministe absolument géniale aussi. Et du coup, là, l'idée, c'est de montrer un peu les enjeux spécifiques féministes de la réforme des retraites et du coup de la nécessité spécifique de lutter contre ce qui va concerner les femmes ou les minorisés de genre qui sont plus précaires, etc. Et voilà, c'est un peu ce que portent nos slogans, nos chants, tout ça.
Travail logistique, travail domestique, toutes ces heures gratuites, t'as qu'il s'approfite. Chaque emploi service, c'est un vrai supplice, nous laisse à la botte du capitalisme. Écoutez Bruno Sabon, écoutez grande notre colère, écoutez Bruno Sabon, on en a marre, on se met en grève. Écoutez nos revendications.
Et il y a l'AG féministe à 16h, comme la semaine dernière, et voilà, on va essayer de continuer à s'organiser.
Et bon, moi je suis Valérie, je suis au planning familial, et on fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Droits des Femmes 69, qui regroupe aussi d'autres assos féministes, des syndicats, des organisations politiques. Et on avait envie de réagir sur cette réforme, d'apporter un regard féministe dans l'analyse de la réforme. Et pourquoi pas de refaire une mobilisation féministe. On est, pour beaucoup, on était dans le mouvement qu'il y avait il y a 3 ans. Contre la précédente réforme de la retraite à points. Et on avait, pareil, à l'époque, on avait proposé cette idée d'AG féministe. Et après, une AG, ça vide sa belle vie. C'est-à-dire, nous, on impulse le truc, mais après, on verra la dynamique, si les gens s'en emparent ou pas. Voilà.
Et du coup, pour l'AG aujourd'hui, est-ce qu'il y a des attentes spécifiques, des envies, des...
Peut-être faire un point si, des luttes. Il y a des personnes qui veulent nous parler de comment ça se passe là où elles travaillent. Est-ce que c'est facile de se mettre en grève ou pas, parler de la réforme et des impacts sur les femmes, mais aussi sur les personnes en situation de handicap, par exemple. Parler de solidarité aussi, de voir comment on peut être solidaire avec peut-être des, imaginons, des femmes qui ont peu de revenus et du coup pour qui c'est hyper difficile de se mettre en grève. Faire un peu de pédagogie, c'est-à-dire on avait fait par exemple des stands dans la rue ou sur des piquets de grève. Pour essayer d'expliquer ben, comment ça marche cette retraite, pourquoi ça ne convient pas et en quoi une analyse de genre, elle permet aussi de comprendre son impact sur les femmes.
Ensemble pour les retraites.
Du coup, je suis allée à la manif avec une collègue. On travaille ensemble dans une association. Et du coup, j'avais l'impression que le mouvement n'est pas forcément très fort dans le secteur associatif. Qu'en fait, c'est un milieu où il y a beaucoup de femmes qui travaillent, où il y a beaucoup de personnes en mi-temps aussi qui travaillent, des animatrices, des animateurs, et du coup, des contrats plutôt précaires. Enfin, on ne va pas cotiser beaucoup pour la retraite. Par exemple, moi, je travaille à mi-temps, donc je ne vois pas beaucoup mes collègues. Et du coup, c'est pas forcément facile de se mettre en lien aussi. On est aussi dans une asso qui n'est pas dans le centre de Lyon. Du coup, pour aller jusqu'à la manif, c'est pas forcément évident. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes syndiquées aussi. Voilà.
Bah juste, moi, c'est Billy. Je suis boulanger et je fais un travail hyper physique et qui, m'épuise beaucoup. Et du coup, ouais. Enfin, du coup, là, je suis en mode, je viens juste de commencer à travailler. C'est chaud, genre, si je dois travailler encore vraiment longtemps. Juste, c'est un travail pénible dans le sens où on se baisse régulièrement, on porte des charges lourdes pour faire le travail dans un temps donné. Voilà, donc ça coche un peu toutes les cases de la pénibilité au travail. Mais oui, c'est vrai, on fait des horaires de nuit aussi. Sauf qu'on se reconnaît pas du tout là-dedans et on n'est pas du tout renseigné. Parce qu'on est très isolé dans nos entreprises et on sort de CFA. Et en CFA, on n'a pas de cours sur les droits du travail.
Du coup, justement, comme je connais pas beaucoup de personnes dans mon secteur de travail, je savais pas forcément où aller en AG. Enfin, j'ai écouté plein de choses sur, par exemple, les femmes avaient le même salaire que les hommes. En fait, il y aurait beaucoup plus de cotisations pour les retraites et finalement, ça comblerait une partie du déficit. Et du coup, je sais pas, j'avais envie de venir ici aussi parce que, tout ce que je te disais sur le fait qu'en fait, il y a principalement en fait des femmes qui travaillent dans le système associatif. Et aussi, j'en discutais avec ma collègue tout à l'heure que certains hommes en fait gagnent beaucoup plus que d'autres dans le centre. Que c'est toujours des contextes aussi où je me sens plus à l'aise de parler parce que les AG, je trouve, c'est un peu faut avoir un peu le pouvoir de la parole. Et forcément, quand t'es une meuf, tu l'as un peu moins.
Là, parce qu'on m'a donné des petits papiers. C'est parce que c'est un, je sais pas, genre, les milieux queer, c'est un peu... je pense que je mets un peu beaucoup d'espoir dans les milieux queer. Il y a beaucoup de déceptions sur ce qui s'y passe ou comment on gère les choses en interne. Comment on est beaucoup entre nous, entre personnes des mêmes classes. Je sais pas, je pense que je me suis retrouvée là parce que justement c'est un appel féministe et que des gens ont donné des papiers un peu à des personnes random et que je me dis que ça peut être plus ouvert, etc. Et aussi parce que les gens autour de moi travaillent pas trop et que j'ai besoin... Enfin, je cherche quelque chose de un peu syndical du travail et aussi féministe et aussi queer. Voilà. J'arrive pas trop avec d'idées préconçues, mais j'attends à ce qu'il y ait des gens qui sont en mode... Oui, ça fait toujours peur quand on voit les mots féministes parce qu'on a peur que ce soit transphobe ou pas très queer inclusif, quoi. Du coup, moi, j'attends qu'il y ait ces côtés-là qui soient bien mis en mode ce qu'on défend, c'est ça.
Ils nous divisent. Ils nous oppriment. Ava, le patriarcat. Ils nous oppriment. Ils nous
Salut, salut, je suis un mec trans, je suis militant dans les milieux autogérés, on pourrait dire ça. Et j'ai eu un faux des AG féministes. Et je suis venu déjà deux fois. Et voilà. Après, c'est à la première AG que ça a été décidé un peu du fonctionnement. Jusque-là, elles sont toujours juste après les manifs contre la réforme des retraites. Et la première fois, il a été voté jusqu'à nouvel ordre, si des gens veulent remettre ça en question, que la présence en AG est mixte, donc tout le monde peut venir. Mais les prises de parole et les votes sont réservés aux femmes et aux minorités de genre. Aussi, on a acté que pour voter des... Enfin, pour avancer sur des choix, il fallait que les propositions de vote soient votées au moins aux deux tiers des personnes qui votent. Je crois que la première chose dont on a parlé, c'était de monter une caisse de grève féministe. Donc ça consiste à créer une cagnotte d'argent pour récolter de l'argent qui puisse être redistribué, notamment sur demande à des femmes et des minorités de genre précaires. Voilà, ensuite on a parlé de créer une garderie pour que des gens et surtout des femmes puissent aller en manif sans leurs enfants si elles n'ont pas envie de les avoir dans les pattes ou qu'elles pensent que c'est dangereux, avec des personnes qui prêtent des appartements et d'organiser des petites garderies autogérées. Je crois que j'attends encore plus, mais que c'est déjà pas mal en termes d'organisation, d'avancées concrètes sur des outils, mais pour moi c'est que des outils qui permettent la suite. Ça, c'est un peu les fondamentaux pour que derrière on puisse se libérer de l'énergie pour augmenter le rapport de force, pour faire du lien avec des gens qui sont chauds de faire du sabotage, de l'expropriation, des trucs comme ça, parce qu'il suffira pas de garder des gamins en me disant Macron prend ta retraite. Moi je pense que les manifs ça va pas suffire en fait. Mais je pense aussi aux autoréductions qui ont pu être réalisées dans des supermarchés un peu partout en France. Enfin, en gros, comment on fait ? J'ai presque envie de dire pour piller, en tout cas pour récupérer des biens et notamment de première nécessité pour sortir les gens de la misère, quoi. Et j'espère que ça va monter en puissance.
Voilà, donc c'était un reportage sur la réforme des retraites selon une perspective féministe et de genre qui souligne bien comment les conditions de travail et donc les retraites est liée au genre des personnes. Pour finir, donc quelques chiffres. Entre 30 et 40 ans, 88% des hommes sont en emploi contre 76% des femmes. Dans l'emploi total des hommes et des femmes, 28% des femmes sont en temps partiel contre 8,3% pour les hommes. Et enfin, pour un emploi à temps plein, un homme gagne en moyenne 30 818 euros par an, alors que les femmes gagnent 25 111 euros en moyenne par an. Voilà, tout est dit.
Encore tout un tas de bonnes raisons d'aller dans la rue ce jeudi. On rappelle juste pour la manifestation de samedi qu'il y a eu au moins 4 personnes qui ont été interpellées par la police, dont une qui passait aujourd'hui en comparution immédiate. On ne sait pas encore quel est le résultat de cette comparution immédiate, mais on lui souhaite bon courage face à la répression.
On va continuer, en lisant un communiqué.
Oui, tout à fait, un communiqué des salariés étudiants de la culture, puisque ça fait plusieurs semaines que ce secteur se réunit régulièrement en Assemblée Générale. Ce jeudi, il y a eu une AG commune assez grosse à l'École des Beaux-Arts, qui réunissait notamment tous les secteurs de la CGT du spectacle, donc plasticiens, musiciens, comédiens, mais aussi différentes associations du secteur, le collectif Unitaire 69, les écoles d'art lyonnaises qui sont en lutte. Donc voilà, le mouvement semble bien en marche pour ce secteur-là. On suivra un peu ce qui se passe par la suite, mais on vous lit tout de suite leur communiqué.
Nous, artistes, créatrices, auteuristes, techniciennes, étudiantes en art, salariées de la culture, intermittentes du spectacle, retraitées,
réunis en Assemblée Générale le 9 février 2023 à l'École des Beaux-Arts de Lyon, appelons l'ensemble du monde des arts, du spectacle et de la culture à se mobiliser et à s'organiser ces prochaines semaines dans nos lieux, écoles, ateliers, scènes. Les raisons de notre colère sont multiples.
La réforme des retraites, une loi pour les patrons. Nous nous opposons fermement à cette réforme des retraites injuste qui repousse l'âge limite de départ à la retraite de 62 à 64 ans et accélère le passage à 43 annuités pour obtenir une retraite à taux plein, obligeant beaucoup de salariés à travailler jusqu'à 67 ans. En somme, travailler plus longtemps pour gagner toujours moins et enrichir davantage les patrons. Le gouvernement nous vend cette réforme comme nécessaire et indispensable, alors que le système des retraites est quasiment à l'équilibre et que les profits et les cadeaux aux grandes entreprises explosent. Les dividendes du CAC 40 s'élevaient à 80 milliards d'euros en 2022.
Les conséquences pour nos secteurs. Nos métiers, souvent touchés par la précarité et nos trajectoires professionnelles discontinues, nous exposent particulièrement à la violence de cette réforme. Il est impossible pour nous d'obtenir une retraite à taux plein dans ces conditions. Cotiser 43 annuités pour un ou une créatrice ou artiste dont une grande partie de l'activité est non rémunérée relève de l'exploit. Parmi nous, certains et certaines exercent des professions particulièrement pénibles. C'est le cas notamment des techniciens et techniciennes du spectacle et de l'événementiel qui portent des charges lourdes, travaillent souvent en hauteur, en horaires décalés, etc. Quand la pénibilité de ces métiers sera-t-elle enfin reconnue ?
Encore une réforme sur le dos des femmes. Dans l'ensemble des secteurs, la flexibilité, la modulation du temps de travail et la discontinuité des carrières concernent particulièrement les femmes. Cette réforme est donc une attaque directe contre celles qui subissent déjà la double journée de travail et les inégalités au travail comme dans leur vie privée. Les femmes sont déjà structurellement plus exposées à la précarité et au temps partiel. Cette réforme va aggraver ces inégalités.
Des attaques de toutes parts contre les précaires comme nous. Les attaques du gouvernement ne se limitent pas aux retraites, notamment avec la nouvelle mesure forçant les personnes au RSA à travailler bénévolement pour continuer à bénéficier de cette aide. Précaire, qui pour certaines artistes, constitue le seul revenu possible durant de nombreuses périodes. La conséquence évidente est qu'une majorité d'artistes seront contraintes, eux, d'abandonner leur activité pour un emploi alimentaire, réservant aux seules classes privilégiées la possibilité d'exercer ce métier et réduisant la diversité des propositions artistiques.
École d'art en danger. Pour finir, l'attaque générale contre les services publics impacte violemment les écoles d'art et de design. Ainsi, dans la plupart de ces écoles, les budgets volent en éclats avec des conséquences désastreuses. Hausse des frais d'inscription et des scolarités, non-remboursement des frais d'inscription pour les étudiantes boursiers, précarisation des personnels, suppression de postes. À court et moyen terme, des dizaines d'écoles sont menacées de fermeture totale. Continuons à nous mobiliser et amplifions cette lutte en fédérant les secteurs des arts, du spectacle et de la culture. Nous avons les moyens de peser dans cette bataille sociale, unissons-nous. Et donc est annoncée une prochaine assemblée générale, soit à l'annexe de l'espace communal de la Guillotière, soit au CFEDEM. Donc le CFEDEM, c'est le centre de formation des enseignants de la musique de Lyon qui se situe à Cordeliers. Et donc ça serait jeudi à 18h. L'information sera publiée très rapidement sur rebellion.info.
Et pour continuer à se mobiliser, on rappelle que la prochaine journée de grève et de manifestation interprofessionnelle, c'est ce jeudi 16 février 2023. Je m'étais un peu emballée, j'allais dire internationale, mais bon, c'est interprofessionnel pour l'instant. Et à Lyon, la manifestation aura lieu à 14h devant la partira à 14h de la manufacture des tabacs. On rappelle aussi que les fédérations nationales CGT, des cheminots, des dockers, de l'énergie, des industries chimiques, des verriers et des raffineurs, autant dire pas mal de secteurs stratégiques, ont publié un communiqué commun aujourd'hui qui appelle à durcir le mouvement. Je les cite, « En plus des journées de grève et de mobilisation interprofessionnelle, il devient urgent de construire et maintenir une pression permanente vis-à-vis de nos employeurs partout sur les lieux de travail. » Les 5 fédérations nationales CGT recherchent ensemble les conditions de l'élévation et de l'élargissement du rapport de force, notamment par la grève reconductible. Et c'est aussi à la grève reconductible qu'appelle l'Union syndicale solidaire à partir du 7 mars dans l'ensemble des secteurs, comme le fait l'intersyndicale de la RATP. À suivre donc, et en tout cas, rendez-vous jeudi pour la prochaine journée de grève et de manif.
On va finir cette émission avec un agenda un petit peu plus général.
Oui, avant la mobilisation de jeudi, vous pouvez aller mardi, donc demain à 18h à l'annexe pour l'Assemblée Générale du Comité de Lutte de Lyon. Donc pour continuer la mobilisation et l'action contre la réforme des retraites, rendez-vous au 25 rue Salomon-Rénac.
Et c'est pas très loin des clameurs, comme ça à 20h30, vous pouvez aller au concert des Branleureuses, qui est une chorale féministe, et c'est un concert en soutien à la caisse de grève féministe.
Et toujours en soutien à une caisse de grève, cette fois-ci mercredi, il y a une projection du film La Sociale, ça sera à l'AFK Bar au 52 rue de l'Université dans le 7e, donc mercredi 15 février à 19h. L'entrée est prix libre et ira donc pour la caisse de grève des travailleurs et travailleuses de l'éducation nationale de Lyon 3, 7, 8 et Vénissieux. C'est une caisse de grève, c'est un collectif qui a été constitué en 2019-2020 contre le précédent, précédent mouvement contre la réforme des retraites.
Et un nouvel espace de discussion et de partage d'informations s'est ouvert à Lyon. C'est un cycle de rencontres. La première occurrence aura lieu ce jeudi. Donc avec l'idée de partager, se connaître, soutenir la liberté de chacun où vivre, où elle veut. Ça s'appelle Lyon Info Migration. Ça se passe au Casdal 221 rue de Créqui. Jeudi, c'est pour rencontrer le collectif des sans-papiers de Lyon 69. Apparemment, c'est sur inscription. Du coup, je vous invite à aller sur l'article Rebellion de l'événement, puisqu'il y a un lien ou un QR code. Et toujours dans le même lieu, donc le Casdal au 221 rue de Créqui, il y a l'Assemblée Générale du lieu. Le Casdal est un immeuble laissé à l'abandon depuis des années, occupé depuis le 21 septembre 2022, afin d'en faire un lieu de solidarité et d'activité. Il est ouvert à toutes et tous. Et donc, les premiers et troisièmes vendredis du mois à 18h30, il y a des assemblées où tout le monde est invité à venir. Je rappelle la date, c'est le 221 rue de Créqui.
Et on l'a déjà dit, mais on le redit quand même, samedi 18 février à 14h, place Gabriel Péri, c'est la manifestation contre la loi Darmanin et contre les centres de rétention administrative.
Et je ne sais pas si on a déjà le son, mais on vous propose pour terminer, puisqu'il reste 1 minute 30, d'écouter notre cher ministre Olivier Dussopt qui nous parle de la réforme des retraites. On l'écoute tout de suite.
Injuste, car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes, et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus, et en particulier ceux issus du capital. Entre les niches fiscales et le bouclier du même nom, beaucoup pourrait être fait pour que l'effort ne porte pas encore une fois sur les seuls salariés. Monsieur le ministre, ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux, ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans?
Et voilà, c'était donc Olivier Dussopt en 2010. À l'époque, il était député socialiste et il s'opposait fermement à la réforme des retraites de Sarkozy, qui donc faisait peu ou prou la même chose que celle de son propre gouvernement. Voilà, donc on écoute ses sages paroles et on se mobilise tous jeudi, toutes et toutes dans la rue pour s'opposer à cette réforme injuste et inique.
Voilà, c'était les Canus Info
du 13 février. Il est 19h59 et on va laisser l'antenne.
On va laisser l'antenne à Poésie Chronique en non-mixité, ou en mixité choisie, je ne sais plus. Et nous, on se retrouve aussi en mixité choisie.
Dans un mois.
Dans un mois.